Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode!
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et votre vie personnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Vous allez écouter aujourd'hui Nolan Bediaf. Nolan m'a été recommandé par Flora, la gardienne de l'équipe de France de rink hockey, qui est passée lors de l'épisode 18, un super épisode au passage. Nolan est champion du monde de roller en ligne, notamment sur la distance mythique du marathon. Je sais qu'une grande partie d'entre vous pratique la course à pied et le vélo. Le roller est un sport qui partage beaucoup de points communs, donc cela m'intéressait d'aller interroger Nolan pour comprendre les spécificités du roller en ligne. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. J'aimerais vraiment interviewer tous vos sportifs préférés. Ces sportifs travaillent souvent avec des agents qui regardent la qualité du podcast. Or, le seul point de repère pour ces agents, ce sont les notes iTunes et Apple Podcasts. Donc si vous souhaitez que j'interviewe des sportifs de plus en plus inspirants, de plus en plus médiatiques, pensez à mettre une note au podcast. Cela convaincra ces agents que vous êtes nombreux à écouter et que cela vaut la peine pour un athlète de venir sur le podcast. Si vous l'avez déjà fait, sachez qu'un exploit se fait toujours en équipe. Donc n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, vous pouvez aussi très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. Je vous rappelle donc le nom du compte extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez toutes les coulisses du podcast. Et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi une newsletter dans laquelle je vous partage mes bons plans santé, forme, sport que vous pouvez retrouver très facilement en tapant extraterrien newsletter dans Google. Vous verrez, j'y partage vraiment plein de bons plans. Allez, je laisse place tout de suite à mon invité du jour, Nolan Bediaf.
Salut Nolan.
Salut.
Bah écoute, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour moi aujourd'hui. Je suis ravi de te rencontrer. Et notamment parce qu'on a été présenté par Flora, avec qui j'ai passé un super moment et on a fait une super interview en parlant de Rink. Et je l'ai revu après et tout. Donc pour te dire à quel point on a bien accroché tous les deux. Donc je lui ai fait confiance à 200% quand elle t'a recommandé et j'étais vachement impatient de qu'on puisse se croiser. Donc on lui passe le petit coucou et on essaie de commencer. Comme je te disais à l'instant, j'aime bien commencer par la question un petit peu de classique, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Je sais pas si c'est mon premier souvenir, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, mon père avait à cœur de nous faire faire du sport pour éviter qu'on soit traîné dans la rue ou à faire d'autres choses que s'occuper ou faire des choses bien. Il a toujours été pro dans le sport et tous les dimanches matins, on allait à la piscine. Tous les dimanches matins, on allait à la même piscine au même endroit tout le temps, quasiment tout l'hiver ou dès qu'on pouvait, on allait à cette piscine. Et c'est peut-être pas mon premier souvenir de sport parce que j'étais pas très jeune, mais c'est un truc que j'aimais bien, ouais, quand on allait le dimanche matin à la piscine. J'avais hâte.
T'es un passé de nageur du coup?
Non. Non, j'allais juste à la piscine pour aller à la piscine. Hein. J'ai jamais été. J'ai beau être signe astrologique de poisson, j'ai jamais été très à l'aise dans une piscine, même si je me débrouille. Hein. Je sais nager, ouais.
Ouais, mais c'est vachement formateur pour les enfants. En plus, le fait d'être à l'aise dans l'eau, d'apprendre à respirer et tout, je sais que ça développe derrière des capacités cardio-pulmonaires assez importantes. Ça se vérifie sur toi, en tout cas.
Ouais, peut-être, ouais. Mais c'est vrai que c'était agréable, ouais. Plutôt d'aller là-bas avec les frères, mes deux frères et mon père et aussi ma mère. Du coup, c'était une sortie familiale et c'était cool. Ouais.
Tu mentionnes ta fratrie, tes frères, ils font du sport aussi?
Bah, ils en ont fait, ils font du foot, le plus grand fait du foot. Il a jamais voulu faire du roller parce que ça faisait mal. le cadet a fait du roller lui aussi et on a couru pas mal d'années ensemble, pas au même niveau, mais on a couru ensemble quand même.
Ouais.
Et là, il fait un peu de crossfit, il va à droite à gauche. Il sait pas trop ce qu'il fait, mais il fait toujours du sport. En fait.
Ouais.
C'est vraiment une ligne de conduite dans la famille, de faire un peu de sport par semaine.
Ok, ouais. Et tu penses que c'est important d'avoir un écosystème ou on va dire un entourage familial très sportif pour être sportif de haut niveau?
Je sais pas si c'est important, mais je pense que s'ils sont un peu sportifs, ça aide à comprendre un peu ce qu'on fait nous quand on fait du haut niveau. Ça c'est plus positif quand ils comprennent ce qu'on fait plutôt qu'ils font ouais, mais pourquoi tu fais tant d'entraînement, pourquoi t'es jamais là, pourquoi t'es pas là, pourquoi t'es pas revenu pour l'anniversaire de ma fille ou des trucs comme ça, enfin des exemples parmi tant d'autres. Et quand ils comprennent ce qu'on fait, c'est plus facile, ouais. moins besoin de se justifier, quoi.
Ouais, ouais, je vois. Et à quelle heure du coup t'as découvert le roller?
J'ai découvert le roller très tôt, je pense, parce que on avait des rollers partout dans la maison.
Ok.
Mais en club, j'ai commencé à 8 ans.
Ah ouais, quand même. Ouais. Et du coup, il y avait un club à côté de chez toi?
Ouais, j'ai commencé à Lamballe. Donc, moi, je suis de Lamballe. J'habitais dans une commune à côté, à 4 km. Et j'ai été avec une copine fin de saison pour découvrir le sport, roller. Donc, j'étais avec elle. Elle en faisait un club, pas moi. Et j'étais avec elle et les dirigeants m'ont dit au mois de septembre, tu reviens, c'est le 4 septembre, faut que tu reviennes, quoi. Donc, j'allais déjà vite, j'avais déjà patiné, donc je suis revenu et j'ai jamais raté.
Ok. Et t'as commencé les compètes rapidement après ça?
Ouais, bah la première année, en fait, j'ai commencé, donc quand j'ai rentré au club, j'ai commencé à faire l'école de patinage. Donc le truc lambda et transversal de toutes les disciplines. Et je faisais un cours d'école du patinage, un cours d'école course. Et j'ai fait ça toute une année en commençant les compétitions. Et puis bah après, j'ai fait que de la course.
Ouais, t'es obligé de passer par la phase d'apprentissage technique parce que c'est quand même... Tout le monde peut faire du roller et apprendre relativement rapidement, mais apprendre à courir, c'est...
Ouais,
c'est
ouais, c'est ça. Donc ouais, fallait apprendre les bases parce que un coureur de vitesse... je dis ça à mes patineurs, c'est un écolier patineur pour les plus jeunes, c'est la même chose, sauf qu'il fait tout plus vite et mieux. Donc je continuais à apprendre les bases des trucs qu'on fait plus, des marches arrière, des sauts, des trucs que je fais pas en course, mais qui aident ensuite à l'apprentissage. Et du coup, ça m'a aidé, je pense. C'était important de continuer à faire ça, et puis c'était au côté ludique.
Ouais.
Côté moins compète, ouais.
Et puis c'est vachement technique aussi, j'ai l'impression, dans le fait de dans la posture que vous avez, vous êtes vachement penché en avant pour essayer d'être le plus aérodynamique possible. Il y a dans les virages aussi, on voit que tu fais quelques vidéos des fois sur ton compte YouTube où on te voit dans des virages essayer de mettre la gouache.
C'est vrai que techniquement c'est dur, ça demande du temps et notamment cette position aérodynamique pour les enfants qui ont tendance à se relever vite et à pas tenir la position.
Ouais.
Chez nous, elle est importante cette position pour être aérodynamique et pour bien appuyer sur les rollers ensuite en dessous, quoi.
OK. OK, ouais.
Mais après oui, c'est un sport qui est technique et qui demande beaucoup de beaucoup de travail, ouais. À l'image de peut-être les nageurs et les cyclistes qui font beaucoup d'heures.
Ouais. Ah ouais. Et toi, tu travailles encore ta technique aujourd'hui?
Je travaille pas avec des exos précis où faut faire tel geste, mais quand j'ai une heure de roller à faire, je passe 95% de mon temps à penser à comment je pose mon pied, si je pousse bien, si je suis bien équilibré, à tout ce qui se passe en dessous. Je suis pas là à penser bon, faut que je fasse les courses, j'ai des couches à acheter, j'ai des non. Ouais. Des fois je me perds un peu dans mes pensées, mais 90% du temps c'est concentré à 200% dans la technique et comment je patine. Même si je sais patiner et je sais bien patiner, je continue à
ouais.
À penser à ça pour que ce soit encore le plus parfait possible.
Ouais, ça me fait penser à Jérémy Azou que j'avais accueilli sur ce podcast, lui fait de l'aviron. Et était champion olympique d'aviron et il me disait ouais sur une séance c'était l'obsession de faire le geste, le coup de rame parfait à chaque fois. Et bon, il me disait qu'il y avait beaucoup de frustration lui dans son sport parce que le geste est jamais parfait finalement. Mais toi c'est un truc que tu ressens aussi des fois, la frustration de pas avoir la glisse.
Ah, il y a des séances quand tu pars et que tu sens que t'as pas des bonnes sensations, tu sais que ça va être une longue séance. Donc ouais, c'est un peu frustrant, mais bon, tu t'oublies le côté technique un peu et tu sais qu'il faut que tu fasses ton volume d'entraînement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Il y a des fois, il y a des jours où t'es là, tu patines les yeux fermés, ça patine trop bien et c'est jouissif ce genre de sensation. Mais et quand ça va pas, bah faut faire avec aussi parce que ça peut arriver un jour de course et
ouais.
Il faut y aller quand même quoi.
Exactement. Ouais. et du coup, à quel moment tu peux nous raconter un peu tes premières compètes et comment est-ce que t'as découvert un peu le haut niveau, parce que je crois que t'es arrivé, t'as tout de suite été assez bon. Mais on t'a pas forcément laissé les places en équipe de France, et tu peux nous raconter un petit peu cette période-là?
Bah c'est vrai que je vais dire que ma vie de roller a été faite en deux parties. Quand j'étais jeune, j'ai fait donc des compétitions jusqu'en équipe de France en moins de 17. J'ai fait les championnats du monde donc en junior. Et après ça, je me suis un peu perdu, ou j'ai pris 2-3 années tranquille. Je continuais le roller, mais j'étais pas à 200% par rapport à mon bac et tout ça.
Ouais.
Et quand je suis arrivé à Toulouse, je me suis vraiment remis à m'entraîner. Et
t'as fait ta petite crise d'ado.
Ouais, un peu avec la vie d'adolescent qui va avec et tout ça, et d'étudiant. Et même si j'ai continué ma vie d'étudiant avec les entraînements. Je m'y suis vraiment mis, j'ai vraiment cru à mon potentiel à partir de ce moment-là.
Ouais.
Et après, ouais, c'était dur de faire sa place. Parce que devant, il y avait du monde et que au championnat d'Europe, c'était plus facile parce qu'il y avait trois sièges, en fait.
Ouais.
On pouvait aligner trois patineurs par distance. Donc, du coup, j'avais ma place naturellement vu que je faisais partie des trois meilleurs français en longue distance. Mais dès que j'arrivais au championnat du monde, ça se compliquait parce que c'était un niveau au-dessus et j'arrivais pas à avoir cette solution-là. Et pendant longtemps, je me battais plus pour une troisième place et être remplaçant au championnat du monde. Et pendant longtemps, j'allais là-bas et au championnat du monde et je regardais les autres courir, quoi.
Ok. Donc,
j'ai eu peu d'opportunités avant et jusqu'à l'année 2014,
ouais.
Où j'ai fait une année blanche, zéro sélection. Pas de championnat d'Europe, pas de championnat du monde. Et ça a été assez dur parce que je pensais que ça allait venir à moi naturellement et tout ça. Et en fait, non, je me suis trop reposé sur mes lauriers. J'étais trop à me battre pour ma place au championnat d'Europe, donc pour le troisième siège, qui au final n'offre rien, qui n'offre pas de leadership sur une course où t'as rien.
Ouais.
Donc, et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, le seul moyen d'avoir les choses, c'est d'être le plus fort. Et si t'es le plus fort, après, au moins... Les gens ont pas de questions à se poser. Si tu peux avoir la course, si tu peux avoir ton siège, si tu peux être sélectionné ou pas, tu seras le plus fort et tu seras indiscutable, entre guillemets. Quoi.
Ouais.
Donc, je me suis remis à l'entraînement avec cette mentalité-là et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire plus de courses au championnat du monde, à faire des médailles au championnat d'Europe et après à performer au championnat du monde et à être là où j'en suis maintenant. Donc,
ouais, donc cette année blanche, c'était un peu le déclic, quoi.
Ouais. Ouais,
tu t'es un peu mis une claque et tu t'es dit, ok, faut se réveiller. Parce que je crois que les deux qui étaient devant toi, tu les mentionnes, c'était deux mecs qui avaient un sacré palmarès aussi, je crois.
Ouais, ils ont un sacré palmarès. C'est Alexis Contin, il est 12 fois champion du monde. Ewan Fernandez, il est 7 ou 8 fois champion du monde. Donc, forcément, ça.
Ouais.
C'est dur de venir les déloger, donc voilà. Après, les circonstances de vie de chacun ont fait que à un moment donné, il y a eu de la place où ils n'étaient pas présents.
Ouais.
Donc c'est là que j'ai réussi à prendre ma place et à directement performer, à être champion du monde directement. Et c'est ça qui était assez assez extraordinaire, c'est que j'ai eu une course au championnat du monde et je l'ai réussi tout de suite.
Ouais.
J'ai pas juste fait une médaille, j'ai fait un titre et donc c'était exceptionnel, ouais. Je l'attendais, je l'ai eu et je me suis pas loupé, donc c'était fort.
Ouais. Ouais, j'imagine. Et du coup, c'était sur ta distance favori, c'est ça, le marathon, il me semble.
C'était avant, j'ai eu deux titres cette année-là, en 2017, du coup, où je gagne le 20 km élimination.
Ouais.
Sur route et deux jours après, je gagne le marathon.
Attends, ouais. Tu peux expliquer rapidement aux auditeurs les différentes courses qu'il y a. Il y a le marathon. Alors, je pense que ça parlera beaucoup aux auditeurs parce qu'il y a beaucoup de marathoniens et de coureurs à pied. Mais la course à élimination, c'est assez particulier. Et d'ailleurs, à regarder, c'est hyper intéressant, je trouve. Il y a une stratégie de malade mental.
Ouais.
Et toi, t'expliques une course à un moment, une petite vidéo où on voit que t'expliques ton titre justement.
Ouais, c'est celle-ci. Ouais. Ouais, c'est mon premier titre. C'est celle-ci. Okay. Où j'explique un peu, où je reprends deux trois faits de course qui me semblaient importants sur la course à élimination.
Et du coup, ouais, tu peux expliquer le concept.
Ouais, du coup, en fait, quand on arrive à un championnat du monde, on a des courses sur piste, donc c'est un petit anneau de 200 mètres.
Ouais.
Où on a, pour les sprinteurs, on a un 200 mètres chrono et un 500 mètres. Ensuite, on a une épreuve de 1000 mètres aussi, qui est un peu entre les deux, entre les sprinteurs et les fondeurs.
Ouais.
Et ensuite, on a la longue distance où on a points et élimination sur piste et un relais par équipe, un relais à l'américaine. Que je vous invite vraiment à aller voir. Pour moi, c'est une des plus belles courses. C'est très dynamique, c'est court, ça change beaucoup de place. Enfin, ça double dans tous les sens. C'est une très belle course. C'est une de mes courses préférées, même si j'ai eu peu de chance de la faire. Et après, on a le championnat route. Ouais. On a un peu les mêmes distances. On a le tour pour la vitesse et le 100 mètres en ligne droite. Et pour le fond, c'est course à élimination et course à points avec des distances un peu plus longues.
Ouais. Okay.
Et ensuite, pour clôturer ça, on a le marathon.
Ok. Et donc, toi, plus ça se rallonge, plus ça te plaît, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, je suis sur toutes les courses de fond. Donc, que ce soit sur piste ou sur route, même si j'ai fait plus de performances sur route. Et donc, du coup, voilà. Après, précisément, l'élimination, on en parlait tout de suite. Le but, c'est on part à 30-40 patineurs. Et à la fin, on est 3 sur piste ou 5 sur route.
Et à chaque tour, il y en a un qui est éliminé.
À chaque tour, il y en a un qui est éliminé et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça diminue le paquet. Et donc, on peut moins se cacher. Le placement est important et il faut aller vite sur la fin.
Ouais.
Donc,
Non, et puis, c'est super agressif dans le peloton, quoi. C'est hyper important avec qui
le placement
et tout. Et là, justement, je crois, sur ce titre, tu suis une équipe de Colombiens, je crois, c'est ça ?
C'est ça.
Qui sont très costauds. Et toi, tu te mets juste derrière eux et t'essayes de
mettre
ta place tout au long de la course.
Ouais,
quoi.
On a beaucoup de placements.
Si tu pars mal,
t'es foutu
par
rapport au vélo, sur un sprint, par exemple, massif, c'est un peu pareil. Sauf que nous, c'est encore plus agressif étant donné qu'on peut être plus proches les uns des autres.
Ouais.
Quand je patine derrière quelqu'un, je suis à 30 cm, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, mes épaules sont à 30 cm des siennes. On est presque emboîté en fait dans le patinage et dans la course, donc du coup quand on veut prendre une place faut vraiment se battre et du coup c'est ça qui rend vraiment dynamique les courses et aussi dur parce que c'est physique, on doit mettre de l'engagement et c'est fatigant de venir chercher sa place en fait.
Ouais. Mais du coup vu que c'est un peu il y a un peu d'agressivité et beaucoup de compétitivité dans le peloton, on va dire, alors que vous devez surtout pas vous faire tomber, c'est assez dangereux quand même.
Ouais, c'est dangereux, mais
c'est quoi l'ambiance
du
coup entre les coureurs, quoi?
Bah, on va dire qu'il y a différents types de coureurs en longue distance. Il y a ceux qui mettent les mains, qui ont tendance à accrocher vite.
Ouais.
Il y a ceux qui ont un peu de finesse tactique, qui vont réussir à, dans le patinage aussi, et qui vont réussir à patiner et en fait à imposer à s'imposer physiquement sans forcément mettre les mains ni les épaules parce que ils vont gêner les autres dans le patinage. Comme si on se rentrait dedans, mais en fait, on maîtrise ce qu'on fait, en fait.
Ouais.
Et après, il y a ceux qui sont un peu moins tactiques et techniques, qui ont joué plus sur le physique, donc ils vont remonter plein de fois.
Okay.
Mais éviter les gens ou rouler plus souvent devant.
Ouais, quand tu dis remonter plein de fois, c'est en gros faire des petites attaques par le côté.
Ouais,
pour
se remettre devant, parce que, par exemple, sur une course d'élimination, devant, il n'y a pas d'élimination, on est un peu plus en sécurité.
Ouais.
Mais si on fait toute la course devant, on est fatigué aussi pour la fin. Donc, le placement idéal sur une course d'élimination, c'est entre 2 et 5.
Ouais. Et puis
lâcher les chevaux sur la fin.
Ouais, ok. Et il y a pas aussi cette histoire de comme dans le vélo de faire des relais le premier dépense beaucoup plus d'énergie et du coup t'essayes de faire un peu des...
Au championnat du monde on est deux, donc on essaye de... On a souvent un leader et un coéquipier, même si c'est pas tout le temps le cas. Le but c'est que un aide l'autre et pour le mettre dans la dans les meilleures conditions pour le sprint d'arrivée.
Ok, d'accord. Ouais. Donc ouais, ça reste un sport d'équipe dans le.
C'est un sport individuel qui se court en équipe.
Ouais. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, tu peux nous raconter un peu la, la sensation là sur ce premier triste. Qu'est-ce que ça fait Comment tu l'as vécu?
Bah c'était ouf parce que les circonstances du championnat ont fait que je courais tout seul. D'habitude, on court par équipe de deux. Mais j'avais mon coéquipier qui s'était fait disqualifier à une course, la dernière course, et les nouveaux règlements font qu'on purge une course de suspension en fait.
Ok.
Donc il y a double sentence quand on se fait disqualifier. Donc on est disqualifié sur la course et la course d'après sur laquelle on est inscrit, on peut pas la courir. Du coup, je me suis retrouvé à courir tout seul, donc sans coéquipier, ce qui est assez rare pour l'équipe de France quand même.
Ouais.
Et donc du coup, le but c'était de jouer tout seul et j'ai essayé de mettre un maximum de temps derrière la paire colombienne en fait, qui était la plus forte sur le papier, et en fait c'était comme si j'étais leur troisième équipier en fait. J'étais tout le temps avec eux et je les aidais un peu, mais eux ils menaient pour moi, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et après à l'arrivée il y a l'Argentin qui lance de loin, je l'utilise comme point de mire.
Mmh.
Je reviens dans l'aspiration et je passe juste devant lui avant le virage, ce qui fait un trou avec les autres qui étaient derrière moi. Donc il y a à peu près à 150 mètres de la ligne, et à partir de là il y a 5 mètres et derrière ils peuvent plus boucher le trou, et je vais jusqu'au bout. C'était drôle cette ligne d'arrivée parce que j'ai eu peur toute la ligne droite d'arriver, même si j'avais 5 mètres parce que il y avait un poteau d'éclairage tous les 10 mètres, et en fait du coup je voyais une ombre qui avançait et qui reculait en fait avec la lumière, en fait c'était la mienne. Et quand je regardais entre mes jambes j'avais peur, j'ai l'impression que quelqu'un qui remontait, je le voyais pas, et donc du coup j'ai eu peur jusqu'à la ligne, en fait il y avait personne quoi. Donc c'était drôle, j'ai eu le temps de m'en rappeler après, c'était drôle, mais après ouais t'exultes parce que c'est le premier, parce que tu le dois à personne, parce que t'as travaillé pour ça depuis très longtemps et que ça a mis du temps à arriver et que c'est là quoi.
Et
après tu mets du temps à réaliser
En plus c'était en Chine,
Nanjing,
je sais pas si ta famille était là et...
Non, j'avais personne clairement. C'est... un voyage comme ça c'est super dur à organiser, avoir un visa pour la Chine c'est aussi très compliqué. Donc non, j'avais personne cette année là juste le staff, les copains de l'encadrement et voilà quoi. J'avais aussi le kiné qui était là, qui est souvent là sur les championnats du monde, et que j'ai eu lors de mon premier championnat d'Europe quand j'avais 12 ans, 13 ans.
Ouais.
Et donc de le retrouver, de suivre, de s'échanger à chaque fois. Donc ouais, c'était la personne de qui je me suis le plus rapproché après le titre et le premier que j'ai serré dans les bras. Ouais. Du coup, c'était cool.
Ah bah c'est chouette.
Ça fait du bien des fois un peu de partager. Ils sont aussi là pour ça et c'est aussi des fois grâce à eux qu'on est aussi manière en forme.
Ouais,
le staff médical est important comme les coachs.
Ouais, bah c'est clair. Et du coup, c'est structuré comment aujourd'hui l'année? En gros, t'as les Roller Games qui sont l'équivalent des Jeux Olympiques, on va dire. C'est aux Olympiades à vous.
Donc ouais, tous les deux ans, on a les Roller Games. Donc tous les années impaires, on a les Roller Games. Donc 2017, c'était la Nanjing en Chine. Cette année, c'était Barcelone.
Ouais.
Nous, après, sur la course, tous les années, on a un championnat du monde, un championnat d'Europe.
Ouais, tous les ans.
Tous les ans, comme cyclisme. Après, en gros, pour faire simple, donc sur la saison, on court souvent sous nos teams, donc sous les équipes professionnelles. On a des courses classiques.
Toi, t'as une équipe.
L'équipe Oskate, qui est une marque de platine. Donc, on a les courses dites classiques, donc sur piste ou sur route. Mmh. Où on a les épreuves de élimination point vitesse, et on a les épreuves de marathon qui sont sur des week-ends différentes, qui sont des courses différentes en fait.
Ok.
Donc courant avril, on a beaucoup de courses classiques. Mois de mai, on a un peu de marathon. Mois de juillet, un peu des marathons, on en a un peu sur toute la saison, et on a un gros bloc de marathon en septembre octobre.
Ok.
Souvent, les championnats d'Europe, championnats du monde sont sur la période juillet août, et après selon où c'est dans le globe, par rapport aux saisons, ça peut bouger quoi.
Ah, donc il y a beaucoup de déplacements au final sur une
année. Ouais, on a beaucoup de déplacements. Par exemple, l'an prochain, le championnat du monde, il est en Colombie.
Mm-hmm.
Et le championnat d'Europe, il est au Portugal. Cette année, c'était championnat d'Europe en Espagne et championnat du monde en Espagne.
Ouais.
On a eu un championnat du monde, j'ai fait Taïwan, la Chine deux fois, Italie, Belgique. Et donc l'idée là, la prochaine, c'est d'aller jusqu'en Colombie aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tous les 4 ans, on a les Jeux mondiaux.
Ouais.
C'est l'antichambre des Jeux olympiques. Donc c'est pareil, c'est une course importante que j'ai jamais faite, que j'aimerais faire avec qui dans 2 ans.
Ok. Ouais.
Voilà, on verra si c'est possible. Et voilà, après à la saison, on a des stages, championnat de France et des sélections et voilà quoi, ça recommence quoi.
Ok. Et du coup, enfin tu vois, le fait qu'il y ait beaucoup de déplacements et tout, vous êtes payé par votre team ou c'est celle qui prend ça à charge et...
Moi j'ai la chance d'être payé par mon équipe.
Ouais.
Pour patiner et après j'ai aussi tous les déplacements qui sont inclus. Donc, c'est assez rare dans le roller de vivre de sa passion, mais j'y arrive avec l'entraînement à côté aussi.
Ouais.
Vu que je suis entraîneur. Donc, j'en profite et je vis ça à fond parce que
c'est assez rare.
C'est une vie de professionnel en fait et de sportif professionnel et c'est vrai que c'est agréable, tu te déplaces, t'es un peu comme une star auprès des jeunes. Alors que faut être rationnel, hein, on gagne pas des milliers, des cents, on a les pieds sur terre, quoi.
Ouais.
Y a les deux qui sont un peu mêlés, donc c'est vrai que c'est cool, c'est une chance.
Ouais, j'en profite, ouais. Bah, c'est clair, là, je le vois beaucoup, en rencontrant, du coup, des sportifs, je me rends compte à chaque fois, il y a toujours sur le financement, tout le monde n'a pas cette chance-là, et certains doivent plus galérer que d'autres. Et c'est vrai que quand t'as l'opportunité de pouvoir t'entraîner, et de pouvoir te déplacer du coup frais d'une équipe et d'une marque, c'est hyper cool quoi.
Ouais.
Donc t'as bien raison d'en profiter, ouais. Et je voulais voir un petit peu du coup ta semaine, comment est-ce que tu t'entraînes et quel volume un peu d'entraînement tu fais, et ça ressemble à quoi une bonne semaine avec Nolan du coup?
Une bonne semaine, là en ce moment, en plein hiver, c'est du volume, donc beaucoup de kilomètres, que ce soit en vélo, en roller ou...
Tu fais aussi du vélo, ouais.
Okay. Ouais, je fais... Bon, c'est plus facile de faire 3 heures de vélo que de faire 3 heures de roller.
Ok, pourquoi?
En vélo, on peut aller un peu partout, on a des freins sur la route, on est plus visible, on prend moins de place. En roller, faut que les routes elles soient à peu près bien, que on soit dans des endroits un peu protégés. Donc, quand je fais 2 heures de roller, je fais ça sur un aller-retour qui fait 8 km.
Ok.
Donc, je fais entre 5 et 7 allers-retours. C'est un peu long, ça peut vite être long en fait. Donc,
ouais.
C'est pour ça que c'est plus compliqué de faire des bornes en roller. C'est beaucoup plus fatigant aussi.
Ok. Ouais.
Donc, le vélo pour ça, c'est une bonne alternative. C'est les mêmes groupes musculaires qui travaillent, donc c'est intéressant.
Ok.
Donc l'idée, ouais, une semaine du coup, c'est de faire des bornes, comme on dit dans le jargon, faire un volume horaire qui va généralement entre 12h et 20h pour les très grosses semaines, mais j'en fais rarement. Je fais rarement en temps d'heure. Généralement je suis autour de 16-17 pour le max. Donc voilà, donc un peu de vélo, un peu de roller, pour du foncier, mais aussi du spécifique avec de la haute intensité, de la vitesse.
Ouais.
Après je fais du renfort musculaire à côté. 2 séances par semaine, et donc voilà, le but c'est de faire entre 8 et 10 séances par semaine. Donc que j'ai 8 à 10 entraînements différents par semaine et pas en faire 15 non plus quoi.
Ouais,
c'est
OK.
Pas,
ouais.
Pas trop le but, faut que l'idée c'est de faire des séances un nombre de séances en fait par semaine.
OK. Et d'essayer de faire plutôt du qualitatif plutôt que...
Ouais, après des fois on fait du volume pour faire du volume, hein.
Ouais. Comme tous les sports de fond, il faut travailler l'endurance.
Ouais, faut travailler l'endurance, donc voilà, et un jour de repos.
Ok.
Généralement, on essaye. Il y a des fois où on fait pas. Je fais des blocs de 2 semaines d'affilée, donc je fais 15 jours sans repos. Et sinon, c'est au moins un jour par semaine. Ouais.
Et vous faites du fractionné ou des séances un peu plus au seuil et un peu plus intense?
Ouais, c'est ça, la haute intensité. J'ai généralement 1 à 2 séances de haute intensité. Voilà, si je parle, je disais 8-10 séances, donc je vais avoir la moitié en volume, donc 4-5 en volume, que ce soit en vélo, en course à pied. Donc je suis à 4. Je fais 1 ou 2 de vitesse.
Ok.
Je fais 1 ou 2 de haute intensité, ça dépend des semaines. Et derrière, 1 ou 2 de plio. Donc,
d'accord.
En 8-10, on y arrive assez rapidement. La haute intensité, après ça varie. Je fais des blocs assez longs en ce moment, donc genre sur des répétitions de entre 5 et 10 minutes, 3-4 fois par entraînement. Sinon des intervalles longs du 5 minutes 5 minutes ou du 3-3 pendant du 3 minutes 3 minutes pendant une heure où on essaye de monter au seuil et de rester au seuil.
Okay, ouais.
C'est des longues séances, ouais.
Ouais, ça pique.
Après, plus on avance dans la saison, plus on diminue les intervalles et on fait encore plus de spécifiques, moins de volume et du coup plus de spécifiques.
Ok.
Donc quand on se rapproche des courses et donc voilà quoi.
Ok.
Généralement, ça arrive vers l'été ou vers avril-mai, on commence à faire beaucoup moins de volume et à descendre, donc en volume à ma saison, donc ça monte et ça descend vers l'objectif en termes de volume volume mensuel d'entraînement.
Ouais, pour que tu puisses effectivement être plus frais. Ok, trop cool. Et t'as mentionné tout à l'heure le fait que tu t'entraînais une équipe, enfin que t'étais entraîneur.
Ouais, je suis entraîneur de club, ouais.
Et du coup, t'es entraîneur pour un club, tu entraînes quoi, des enfants, c'est des jeunes, c'est tout âge et...
J'entraîne de tout. Okay. Après là, le club où je suis, c'est l'école course, donc j'ai des petits qui ont entre 6 et ça va jusqu'à 12 ans. J'ai un groupe de 8 à 10 patineurs.
Ok.
Je les entraîne 3 fois par semaine et voilà quoi. Donc.
Et eux, ils font de la compète?
Ouais. L'idée, c'est de les emmener sur la course. Moi, je suis après, enfin, je suis responsable de l'école course.
Okay.
Donc l'idée c'est de leur donner un maximum de compétences techniques et tactiques et après le physique ça viendra quand ils seront plus grands mais
ouais
et pour qu'ils puissent se défendre sur les courses régionales et nationales.
Trop cool et ça te plaît du coup comme job?
Ouais, j'aime bien. Après j'ai plus de petits là, j'ai plus de jeunes. J'aimerais avoir des plus grands entre 12.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
12 et 16 ans, ça me plairait plus.
Ok.
Mais j'ai repris un club là il y a 2 ans, donc du coup le processus est long à recréer, ouais. Quoi. Donc ceux que j'ai là, je les aurai peut-être dans 4-5 ans, ils auront l'âge que où j'affectionne plus, où on est vraiment plus dans l'échange et où les performances je trouve sont plus intéressantes,
ouais.
À faire.
Ouais, ils peuvent plus intellectualiser ce qu'ils apprennent et ils peuvent poser des questions.
Je me sens mieux là-dessus. J'avais un club avant où j'entraînais, où j'avais un groupe de 10 patineurs entre 12 et 16 ans.
Ouais.
Et je me régalais à chaque entraînement, quoi. C'était vraiment cool, quoi. Et j'en ai certains qui ont fait l'équipe de France, donc c'était. C'est intéressant, même si c'est pas ma performance. C'est toujours cool de voir quelqu'un qu'on entraîne réussir.
Ouais, bah bien sûr, c'est toujours plaisant, ouais. Et c'est quoi comment est-ce que tu repères un bon patineur, un futur champion?
Ouais, il est curieux, il veut toujours faire plus, il essaye des trucs sans même que tu lui demandes. Donc ça veut dire qu'il ressent des choses, qu'il va essayer des trucs que même pas t'aurais eu dit de lui dire.
Ouais.
T'aurais dû lui dire peut-être dans 3-4 ans. Mais il a été le chercher tout seul et le trouver tout seul et je trouve que c'est à ça qu'on repère. Après maintenant faut aller vite,
ouais.
Donc faut qu'il aille vite. Après faut être technique, c'est un sport qui reste technique quand même. On a vraiment beaucoup de gabarits différents, donc tout le monde peut réussir dans ce sport, il faut bien patiner.
Ah ouais, il y a plusieurs gabarits.
Ouais, clairement, en longue distance, même s'il y a des morphotypes, hein, l'idée c'est que le mec de longue distance il a un rapport poids puissance à important, donc par exemple pour un mec d'1m75 généralement il va faire autour de 65 kilos, quoi. C'est moins 10 par rapport à taille poids.
Ok.
Après t'as des anomalies, moi je fais partie des anomalies, je fais 1m75 pour 72 kilos, donc je suis quand même assez lourd.
Ouais.
Alors que généralement j'aurais peut-être plus un profil de sprinter où les sprinters font mon taille poids à peu près, 1m75, 75 kilos, donc ils sont beaucoup plus massifs.
Okay,
après voilà, il y a des mecs qui font 1m65 qui gagnent des courses de fond, qui sont champions du monde. Il y en a qui font 1m80, ils sont champions du monde sur les mêmes distances. Il y a pas un morphotype qui dit bah toi t'es grand, tu vas gagner parce que t'es grand et voilà quoi.
Ok.
Il y a vraiment un sport technique, donc si le mec il est grand mais qu'il sait pas patiner, bah il ira pas loin quoi.
Ok, je vois.
Donc la technique est importante, après le physique aussi, mais faut quand même savoir bien patiner à haut niveau. Il suffit pas juste d'être physique, il faut savoir et bien patiner et être physique, quoi.
Ouais, ok. Donc chez un enfant, tu vas plus rechercher effectivement.
Ouais, la technique c'est
là où il peut se démarquer, quoi.
Ouais.
Ok.
c'est plus facile de travailler la technique chez un enfant que le physique. Son corps est pas prêt encore, donc la technique, c'est lui montrer les bons gestes et il aura l'air faire plus grand. Donc et quand il pourra mettre le volume et l'intensité plus grand, normalement, ça fera un patineur de bon niveau.
Et depuis 2 ans, t'es papa d'un petit garçon.
Ouais.
Ça a changé quelque chose pour toi, pour ta carrière sportive et...
Ouais, je dirais que ça a changé, ouais, surtout la première année en 2018, où on prend pas forcément conscience, enfin, j'avais pas pris conscience que c'est un vrai boulot, entre guillemets, que c'est de la fatigue.
Ouais.
Parce que c'est un peu de soucis en plus aussi. Que c'est une organisation qui est différente parce que, bah, faut l'emmener chez la nounou en fonction des courses. Les entraînements, des fois, je les enchaîne. Des fois, ça m'arrive de faire 2 entraînements dans l'après-midi parce que j'ai pas le choix par rapport à la nounou et au travail de ma femme. C'est une organisation qui est différente. Et j'ai failli passer à côté de mon année 2018 parce que j'avais pas pris conscience que c'était plus fatigant et qu'il fallait s'adapter beaucoup plus, en fait. Ouais. Je voulais faire autant avec mon petit et c'était pas possible, en fait.
Ouais.
Et donc, à un moment, j'ai pris un gros trou dans ma forme physique, dans ma saison, et j'ai dû faire une pause de 1 semaine en plein milieu de la saison pour recharger les batteries. Maintenant, je m'y suis fait.
Ouais.
Il vient sur les compètes, on s'organise, on a des amis qui nous aident pour le garder le week-end, puisque ma femme est infirmière et qui travaille aussi les week-ends.
Ouais.
Donc c'est pas
choisi le boulot
mais ça me va. Quand je tombais et qu'elle me faisait des pansements, j'étais content qu'elle soit infirmière aussi, donc non c'est une organisation qui est différente, mais je pars du principe que, enfin, moi c'est ma ligne de conduite, je pars du principe que le bien-être personnel me fait aller plus vite sur les courses. Donc si tout va bien à la maison, même si je loupe un entraînement parce que fallait que je garde mon petit, bah c'est pas grave. Ouais. Je le rattraperai, ou c'est pas grave, le bien-être que j'ai, le moment que j'ai passé avec mon petit va me servir plus tard, et
ouais,
et aussi important qu'un entraînement des fois, ouais, de partager avec lui des trucs, ouais, le fait qu'il grandisse, quoi. Enfin, j'essaye de pas louper trop d'étapes, même si sur un championnat du monde, quand on part 2-3 semaines, c'est compliqué.
Ouais.
Mais voilà, on fait avec, quoi. Mais c'est vrai que moi je trouve maintenant que c'est un plus.
Ouais.
Parce que j'ai réussi à en faire une force plutôt qu'une faiblesse, donc c'est vrai que c'est cool.
Ok. Moi, ouais, mais c'est comme ça après pour beaucoup de, enfin, même pour les gens qui sont pas sportifs de haut niveau, tu vois, avoir un enfant, ça te fait prendre des choix un peu plus sains, un peu plus raisonnés.
Ouais.
Tu y repenses toujours à 2 fois, donc c'est vrai que ça devient une force si tu veux que ça soit une force, donc ça c'est plutôt cool.
Ouais.
Mais bah, félicitations en tout cas, et peut-être en tout cas ça t'a porté chance cette année, parce que du coup tu regagnes le marathon à Barcelone, c'est ça?
Ouais.
Tu peux nous raconter un peu cette course, parce que je crois que paquet, non? Enfin, il y avait beaucoup de... C'était très serré jusqu'à la fin.
Ouais, il y avait un très gros niveau, un niveau beaucoup plus important qu'il y a 2 ans quand j'avais fait champion du monde à Nanjing. Parce que c'était une année pré-olympique et on a beaucoup de patineurs de roller qui passent sur la glace l'hiver, en fait, pour faire les Jeux Olympiques.
Ok.
Et donc il y avait un peu moins de monde, c'était l'autre bout du monde, et donc quand on voyage comme ça, c'est quand on est une optique de préparation olympique, par exemple, c'est une perte d'entraînement, de temps d'aller 3 semaines en Chine pour faire des compètes, en fait,
même
si c'est un championnat du monde. Et donc du coup cette année il y avait un peu plus de monde et un niveau plus important, et donc mes performances étaient belles en 2017, mais
attends, parce que du coup ceux qui font les JO sur glace, mais ils font que du sprint, non? Il y a pas de longue distance, il me semble, sur glace.
Si, il y a du longue distance, parce qu'il y a 2 sports sur glace qui ressemblent au roller, il y a le short track sur la petite piste,
ouais,
et le long track sur une piste qui fait 400 mètres.
D'accord, ok.
Et là, ça va jusqu'à 5-10 km,
la start. Ah, ok, d'accord. Ouais.
Donc, c'est des sports qui sont similaires, pas exactement pareils, hein, parce que la technique est beaucoup plus précise sur glace, mais le parallèle est jouable, et beaucoup plus de patineurs de roller de vitesse partent sur la glace maintenant. Ouais. Et donc du coup, pour revenir à ma petite histoire, en 2017, il y avait un peu moins de monde, un peu moins de pointures parce qu'ils préparaient les Jeux Olympiques. Il y a eu des commentaires des fois par moment qui m'ont qui m'ont agacé, hein, clairement. Où certains disaient que ouais, mais il y avait moins de monde sur tes titres de championnat du monde, c'est plus facile. On verra quand tout le monde sera là et tout. Donc en 2018, j'ai pas fait une bonne année, j'ai quand même pris une médaille et tout le monde était là. Ouais. Là en 2019, tout le monde était là et j'ai réussi à prendre un titre de champion du monde. Donc ouais, c'était. En fait, c'est toutes ces petites choses, ces petits détails qui font que c'est ma plus belle victoire en carrière, je pense. Parce qu'il y avait cet esprit de vengeance un peu par rapport au fait que tout le monde n'était pas là, soi-disant, il y a 2 ans, que je bats mon meilleur ennemi, clairement. Okay. Le Belge Bart Swing, que j'ai jamais battu en marathon ou même en course directe. Le fait que ce soit à Barcelone, que mes proches étaient là, ma femme, mon psy, mon meilleur ami, les copains, et le fait que on avait galéré toute l'équipe de France sur toute la semaine et qu'on n'avait pas eu de titre encore.
Ouais.
Et donc tout ça réuni à la fin, ouais, ça explose et c'est vrai que c'était émotionnellement c'était quand même assez fort, ouais.
C'est ton plus beau souvenir de ta carrière?
Ouais, je pense, ouais. Par rapport à tout ce qu'il y a autour, ouais, je pense. Parce que, bah, j'ai battu Bart et que c'était pour moi, c'est un, on est né le même mois, de la même année, et donc, on s'est suivi toute la carrière, toute notre carrière, et sauf que lui, il a une carrière beaucoup plus importante que la nôtre, que la mienne. Mais là, de le battre parce que je l'avais jamais battu, c'était fort. Après, je remets les points sur les i par rapport à toutes les histoires qu'il y avait eu, entre guillemets, même si c'est plus moi qui me suis monté le borichon. et puis le fait que ce soit devant la famille, en 14 juillet, à Barcelone, sur une des plus belles avenues du monde, c'était ouf.
Ouais, ça devait être ça, c'était ça.
C'était assez extraordinaire, ouais.
Ouais. Et ça se termine au sprint, t'es juste devant lui, à quoi, 50 centimètres, 1 mètre, un truc comme ça.
Non, ouais.
C'est un peu plus. Mais
je gagne avec de la marge, je me relève un peu sur la fin et je peux lever les bras avant la ligne.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que ça joue à pas grand chose, mais ça joue. En termes de temps, il doit y avoir 10 millièmes peut-être, pas plus que ça. Mais on arrive à 63 km/h, donc à plus de 60 à l'heure, donc forcément 10 millièmes, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même à 63 km/h, ça fait un peu de distance. Il y avait 1 mètre, 2 mètres peut-être.
Ouais.
Donc le temps de lever les bras avant la ligne, ouais.
Vous arrivez souvent en masse comme ça sur la ligne, parce que là je regardais la course.
Ça arrive de temps en temps. Ouais.
C'est impressionnant, quoi.
Ce qui est plus dur, c'est que maintenant tout le monde va plus vite. C'est plus facile de suivre dans l'aspiration. Et donc maintenant, pour faire simple, quelqu'un qui veut partir en échappée, il faut qu'il roule à entre 45 et 50 km/h pendant au moins 1 ou 2 km pour faire un trou, pour qu'il ait créé un gap. Et derrière, faut que le peloton roule pas aussi vite, quoi.
Ouais.
Et sincèrement, tout seul de maintenir, ou même un petit groupe de 3-4, maintenir au-dessus de 45 km/h, c'est quelque chose d'assez dur. Et sachant que pour un peloton de 100 patineurs, 45 à l'heure, c'est du coup de patin et c'est facile, quoi. Donc ça arrive de plus en plus souvent parce qu'il y a ce phénomène de masse qui fait que le peloton va plus vite et que c'est dur de partir, quoi. Et on n'a pas des circuits hyper sélectifs avec des grosses montées ou des trucs comme ça. On a plutôt des circuits plats avec très peu technique.
Ouais, très droit aussi. Ouais.
Donc ça favorise des arrivées au sprint massif, ouais.
Ouais, ok. Et du coup, pour qu'il y ait moins de sprint, il faut des courses qui soient plus compliquées, si je comprends bien, et moins accessibles.
Ouais, un peu plus compliquées.
Un peu plus hachées, avec plus de virages.
Ouais, des fois, faut aussi que ça s'entende devant et que ce soit représenté. Sur des courses comme ça, on fait en sorte qu'il y ait toujours un Français dans l'échappée.
Ouais.
Comme ça, on n'a pas à rouler derrière, on n'est pas à l'envers, en fait.
Ouais.
Alors du coup, quand il y a une équipe qui est pas représentée, bah, elle va se mettre à rouler. Et en fait, si on veut des échappées, il faut aussi qu'à un moment, il y en a qui se posent des questions et qu'il y ait un temps de latence pour que ça crée un trou important. Et que les mecs, ils se disent, est-ce que je roule quand même parce que c'est loin, et qu'ils se fassent un peu piéger, quoi.
Ouais.
Après, ça arrive de moins en moins parce que les courses sont hyper bien. Enfin, les mecs, ils savent courir. Au championnat du monde, ils font pas d'erreur parce que t'attends un an pour cette course-là, pour ce titre-là. Donc,
c'est
tout
clair,
le monde se donne à fond. Et puis, on peut compter sur des équipes beaucoup plus grosses que sur des marathons au long de l'année, quoi.
Ouais.
Nous, on était 8 Français, les Colombiens, ils étaient une douzaine. Enfin, du coup, c'est plus facile de rouler quand t'es 12 que quand t'es 3-4 sur toute l'année, quoi.
Ouais, j'imagine, ouais. Ok. Et du coup, là, t'as gagné plein de titres. On va dire que t'as pris ta revanche sur un peu ce qu'on pouvait dire sur ouais. toi. C'est quoi tes prochains objectifs et où est-ce que t'en es là aujourd'hui?
Moi, les prochains objectifs, ça va être l'an prochain, j'aimerais bien gagner la Coupe du Monde des marathons.
Ok.
Redevenir champion du monde encore parce que on se prépare pour ça clairement et j'aimerais être champion du monde sur piste et pourquoi pas et aussi ouais pourquoi pas aussi être champion du monde de l'américaine okay. parce que c'est des courses qui sont belles et qui font rêver
en équipe
ouais en équipe on n'a pas beaucoup de courses d'équipe on est à trois à plusieurs à monter sur le podium ensemble mais bon, c'est la seule d'ailleurs. Mais donc voilà, après non, c'est de redevenir champion du monde et puis d'aller en Colombie, c'est la meilleure nation depuis 7-8 ans. Ouais. Le but c'est d'aller là-bas et de pas être spectateur quoi. Clairement parce que l'événement il va être ouf, je pense. Les Colombiens, ils savent recevoir et c'est un sport très développé le roller là-bas, le ouais. roller course. Donc d'aller là-bas, de pas être spectateur de ce qui se passe parce qu'il y aura du monde parce que les Colombiens vont être à 2000% et voilà quoi. Donc l'idée c'est d'aller là-bas et ouais d'aller manger du Colombien chez eux entre guillemets. Ça donne envie ouais.
Bah ouais, c'est clair, aller chercher les meilleures nations, ouais, c'est toujours hyper excitant. Bah OK, super cool, génial. Bah là j'arrive un petit peu à la fin des questions, j'ai des questions que j'aime bien poser comme ça, c'est les auditeurs qui me les proposent et c'est un peu des questions génériques, mais tu vas voir, c'est assez sympa. Tu peux y répondre soit très rapidement, soit tu peux détailler comme tu veux. Mais c'est quoi une bonne journée pour toi?
Ah, une bonne journée, je pense que ça commence la nuit, c'est comme on dit, fait une bonne nuit entière. On n'est pas trop réveillé en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, petit déjeuner tranquille avec ma femme, je pars faire mon vélo et bon, ouais, comme un dimanche, un repas et puis l'après-midi on va se promener, pas forcément une grosse journée d'entraînement mais une journée simple avec mes proches ou aller se balader avec un petit soleil, que ce soit l'hiver ou l'été. Moi j'aime bien tant qu'il fait beau et que c'est sec. Et donc voilà, ouais, une bonne sortie vélo le matin, revenir manger et passer l'après-midi à jouer ou à autre avec mon petit, mon chien et ma femme, ouais.
Trop cool. Journée simple. Calme et simplicité. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ouais, il y en a plusieurs, je dirais. Enfin, un, c'était d'arrêter de m'occuper des autres et de s'occuper de soi-même et d'arrêter de me limiter aux autres en fait, parce que je m'occupais des autres pour être un petit peu plus fort qu'eux. Mmh. Et sauf que je visais des mecs qui étaient à peu près à mon niveau et je visais pas les top level. Donc du coup, à un moment donné, bah je me limitais moi-même en fait.
Ok.
Mon idée c'est pense à toi parce que c'est un sport individuel. Essaye d'être le plus fort que tu peux, mais te fixe pas par rapport aux autres. Enfin, faut les envier pour avancer, mais faut les regarder pour avancer, mais faut pas les envier quoi. Faut tracer sa route et. Et ça faisait partie des trucs que j'ai appris en 2014.
C'est un bon conseil en tout cas. Tu peux nous dire ton pire souvenir de course?
Pire souvenir de course, je sais. Enfin, ouais, je dirais qu'il y en a, plusieurs, il y en a plein. Après, ouais, pire souvenir de course. Je veux dire 20 km élimination à Taïwan en 2015. Mmh. Première course au championnat du monde où je suis aligné sur route.
Ok, c'est donc première.
Vraiment où ce que j'attendais. Donc j'étais revenu de mon année pourrie et du coup j'étais content d'être là, j'étais content de courir et j'ai eu ma première opportunité sur piste autre que le marathon. Et je passe complètement à côté, j'étais tétanisé, j'ai crampé au bout de 10 km, j'ai donné tout ce que j'ai pu, je fais 8e. Mon coéquipier fait 2e. Mmh. Mais la course la pire psychologiquement et ouais, je suis passé à côté quoi.
OK.
J'étais spectateur quoi. Et je me suis fait emporter par l'événement et je me suis dit qu'il fallait plus que ça arrive parce que j'avais pas 10 000 courses devant moi et que je pouvais pas passer à côté comme ça d'une course qu'on me donne quoi. Enfin, qu'on me laisse la chance de courir parce qu'on a quand même un grand niveau en France. Quand t'es là à courir et qu'il y a que deux places alors que derrière toi il y a une équipe de 10 patineurs.
Ouais.
Faut assurer. Il faut pas la louper non plus parce que les chances, on en a pas 10 000, faut pas les laisser passer, quoi.
Ok.
Donc c'est vrai que sur le coup, avant une performance d'après, ouais, là c'était dur. Psychologiquement, c'était dur, quoi.
Ouais. Il y a eu des moments décisifs dans ta carrière?
Il y a des moments où t'apprends des trucs, ouais. Je dirais des courses que j'ai fait tout seul sur des marathons où tu dois assumer le poids de la course.
Ouais.
Tu sais que t'es favori, les autres savent que t'es favori, t'es le plus fort. Et quand les mecs ils te regardent et ils te font comprendre, il y a une attaque, ils te regardent. Je les regarde et tout le monde te fait comprendre que c'est à toi de bosser parce que t'es le plus fort. Et,
ouais.
Et de toute façon, nous, si on se découvre, tu vas nous tuer parce que tu vas mettre une attaque, on pourra plus suivre, donc faut que t'assumes. Et donc ouais, tu prends de la responsabilité et après tu prends ouais de l'autorité un peu dans le peloton aussi, parce que quand t'arrives à les gagner ces courses là ben c'est top, quoi.
Ouais,
c'est top.
Tu prends en confiance.
Ouais, tu prends en confiance et tu te dis ouais, bon, t'es peut-être le plus fort, t'as peut-être de la pression, mais tu sais le gérer. Tu vas apprendre à le gérer, t'auras des échecs, c'est sûr, parce que encore à un moment donné, t'auras tout le monde contre toi, tu pourras pas non plus faire des miracles. Mais je trouvais que c'était important de ce genre de course pour prendre de la confiance en soi et dire que vraiment c'est possible, quoi.
Ok. Est-ce que t'as une idole sportive?
Ouais, j'aime bien Roger Federer.
Ouais.
Son parcours, le fait qu'il soit aussi humble, tout ce qu'il a fait, son jeu au tennis, le fait qu'il crie pas partout sur tous les cours, sur chaque coup droit ou chaque revers, ça j'aime bien quand même parce que c'est quand même pas tout le temps cool quand t'entends les mecs en train de crier sur chaque coup et quand t'as des rallyes comme ils disent de 25 coups et que t'entends tout ça. J'aimais bien le personnage, ouais. Okay. Roger Federer, ouais, j'aime bien.
Ouais, ouais, bah, le nom revient souvent quand même. C'est un.
Ouais, ouais, c'est un gros personnage. Et, il est humble et.
Tu joues un peu au tennis du coup ou...
Pas du tout. Je déteste ça.
Ouais. Tu regardes pour la beauté du.
Ouais,
du jeu.
Ouais, je regarde parce que j'aime le sport. Je regarde tous les sports possibles qui passent à la télé. Et ouais, le tennis avec Roland Garros notamment qui diffuse sur France Télévisions, bah c'est cool de voir du sport à la télé. Et donc ouais, tu regardes Roland Garros, ouais.
Ouais, carrément. Ouais. T'as des regrets dans ta carrière?
Pas des regrets, peut-être des remords sur certaines courses ou certains trucs que j'aurais dû mieux faire ou des courses où je passe pas loin de la gagne mais je gagne pas parce que sur quelques petits détails, mais non oui. Parce que c'est peut-être aussi ça qui a fait ma carrière à un moment donné, c'est les erreurs ou les remords qu'on aurait pu avoir ou les regrets, bah faut pas en avoir, tu l'as fait, tant pis, tu passes à la suite et t'avances, t'essayes juste de t'en rappeler pour pouvoir refaire la même chose.
Voilà, ouais, bien dit. Tu te vois où dans 10 ans?
Je me vois où dans 10 ans? Tranquillement, peut-être à entraîner un club, peut-être à avoir complètement arrêté le roller. Je sais pas, 10 ans c'est loin.
Ouais.
Je pourrais peut-être dire dans 2-3 ans, 4 ans, on a un projet de partir 6 mois loin d'ici.
Ok.
Avec ma femme et mon petit. Donc, ouais, dans 3-4 ans peut-être. Peut-être même avant 2 ans, je sais pas où m'emmènera le roller si j'arrive à en vivre suffisamment pour pas faire ça, mais ouais, l'idée serait partir 6-7 mois
peut-être à la destination.
Attends, c'est où? Je vous confonds toujours à Tahiti, ouais.
À Tahiti?
Ouais, carrément, l'autre bout du monde, ouais.
Ok, d'accord.
Bon, bah, ça serait le délire, 6 mois là-bas, vivre là-bas, travailler là-bas s'il faut un petit peu.
Tu rentreras jamais, tu sais.
Bah,
c'est ce qu'on dit,
pas.
Hein, c'est ce qu'on dit.
Pareil, ouais. Mais on verra.
Quand tu prends le rythme.
Après, la famille, c'est important quand même.
Bah ouais, c'est clair. Il y a encore des choses qui te font peur?
Non, il y a des choses qui me faisaient pas peur, des choses qui me faisaient pas peur avant, mais auxquelles je pense maintenant parce que comme on dit dans le jargon, je suis plus proche de la fin que du début. Ouais, là, après, peut-être me fait un peu peur. Commence à me faire peur.
Ok. Ouais.
Ouais, pas me faire peur, mais je me pose des questions.
Ok.
Plus des interrogations. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être facile et puis je vais passer d'un truc à l'autre comme ça et
ouais,
ça sera un petit peu après. Non, les peurs maintenant sont plus liées à mon enfant et tout ce qui va à côté, quoi. Quand je tombe ou je prends des risques sur des trucs, faut pas, enfin, t'as pas envie d'avoir un bras cassé, ou déjà pour ta carrière sportive mais aussi pour tout ce qui se passe à la maison, parce que quand faut porter ton petit ou des trucs comme ça, c'est bien d'avoir intégrité physique, quoi, d'avoir, ouais, tous ses membres et tout ça, quoi.
Ouais, mais là tu parlais un petit peu de l'après. J'ai l'impression que c'est un gros sujet quand même. Tu vois, il y a pas mal de sportifs qui passent un peu par une période un peu de creux et faut y penser quoi. Faut penser pour se relancer tout de suite, tu vois.
Ouais, c'est ça. Faut y penser. Après, je sais pas si je veux faire ça loin du roller.
Ouais.
Parce que je suis quand même entraîneur, donc si je continuais à entraîner, je serais encore dedans. Ou alors si je suis toujours à fond dans le roller, mais sans ma carrière d'athlète, juste entraîner, je sais pas si j'en serais capable en fait. C'est les questions que je me pose. Ou alors si je plaque tout complètement et je repars sur autre chose, sur mes premières études en l'informatique industrielle et l'automatisme, mais je sais pas.
Bah, pour être honnête, j'en ai vu aucun qui a complètement lâché quoi. Tu vois, il y a toujours énormément de sport dans leur quotidien.
Ah ouais, bah ça non. Là, je fais ma pause annuelle de 2 semaines, je deviens invivable au bout d'une semaine. Donc quand je fais 2 semaines sans rien, je m'impose 2 à 3 semaines où je fais zéro sport.
Ouais,
au bout d'une semaine, je suis invivable quoi. J'ai pas ma dose entre guillemets, donc arrêter le sport, c'est pas possible.
Ouais, bon, on se comprend. Moi, je suis un peu pareil. J'ai besoin tous les jours de faire ma grosse séance. Mais ouais, c'est normal. Hein, ça rythme ta vie, tes hormones, ton énergie. Donc
ouais, c'est une ligne de conduite. Enfin, moi, le sport m'a apporté, outre le performance, les voyages et tout ce qui va avec dans le roller, ça m'a apporté une ligne de conduite et c'est ce qui me guide dans ma vie. Et tout ce que j'ai appris dans le sport, à vivre en groupe, à sur moi personnellement, je l'aurais appris nulle part ailleurs. Et je sais que c'est quelque chose qui me guide au quotidien. Donc, le sport fait partie de moi et je pense que c'est quelque chose que je veux... Ouais, que je veux donner aussi à mon fils. Ouais. Je veux que ça fasse partie de lui aussi.
Bah, c'est clair, c'est clair. Il y a un film ou un livre que tu recommandes à tout le monde?
J'aime bien les films de sport, un peu d'histoire réelle, hein. Notamment aux États-Unis, que ce soit sur le football américain, hein, le basket, des sports co, des sports individuels.
Ouais.
Ce genre de film, un peu, j'aime bien. Il y a le film, un des films les plus récents, c'était sur la skieuse, une skieuse de boss américaine.
Ok.
Je crois que ça s'appelle Le Jeu, le film.
Okay.
Où elle se pète en fait. Et à côté, du coup, pour vivre, elle fait, elle crée des salles de poker un peu en dessous, enfin où t'as pas le droit en fait, un peu des salles de poker interdites. Et c'est toujours dans l'esprit du jeu, avec un esprit de compétition où elle sort de avec sa mentalité sportive où elle crée un truc de ouf.
Ok.
Donc ça, qu'il y a le film avec Will Smith, Concussion, là, sur le football américain et les commotions cérébrales, Coach Carter sur le basketball, ou les histoires avec les communautés afro-américaines, notamment aux États-Unis dans les années 70-80, où c'était compliqué et où ils s'en sortent par le sport.
Ok.
Ce genre de film, qui donne du sens, quoi, qui sont inspirants, je trouve.
Bah écoute, ça tombe super bien parce que j'en connais aucun de tous ceux que tu m'as cités, donc je sais quoi faire ce soir et je vais vite rattraper mon retard.
Pour les citer, Netflix, ils en ont pas mal sur leur base de données, des films inspirés de faits réels. Ils en ont pas mal sur le sport.
Ok.
Il y a des belles histoires de vie.
Bon, bah trop cool. Je vais regarder avec grand plaisir. Je manque de culture filmatographique et sportive. Où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre et voir un petit peu ce que tu fais, ton actualité?
Depuis peu, je suis beaucoup plus sur Instagram. Parce que ça marche plus, les photos, tout ça. Donc là, Nolan BDF. J'ai une chaîne YouTube, je suis aussi un peu sur Twitter, même si j'y suis juste pour moi, pour regarder les actualités, sur Instagram bien sûr, sur Facebook bien sûr. Voilà, sinon après, dans la presse Ouest France, l'emballe, j'ai toujours quelques articles régulièrement, voilà, si jamais, mais beaucoup sur Instagram quand même.
Ok, ça marche, trop cool. Bon, on arrive à la dernière question.
Je vais rajouter sur Strava pour ceux qui veulent suivre.
Ah ouais,
les
contenus
sportifs, parce que je sais qu'il y a pas beaucoup aller là-dessus. Vous me trouvez, c'est libre. Des fois il y a mes pulses, des fois il y a ma pulse, vélo, tout ce que je fais sur Strava, ça y est normalement.
Ah bah écoute,
donc, si jamais vous êtes intéressé de voir, par curiosité, moi je note pas mes séances, je dis pas ce que je fais, mais il y a juste à regarder un peu, soit mes vitesses, soit mes pulses pour voir un peu mes intensités. Je pense qu'il y a pas de secret, tout le monde sait s'entraîner.
Ouais.
Maintenant il y a plus de secret dans l'entraînement, voilà, Donc c'est free, les gens peuvent aller voir.
Bah écoute, tu fais bien le dire, c'est la première fois qu'on le dit sur ce podcast, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur Strava, je le suis moi-même, donc on ira regarder tout
ouais,
ça.
Allez-y, il y a plein de trucs à voir. D'un fois je mets quelques photos,
trop cool.
Voilà.
Et du coup je te disais on arrive à la dernière question. Est-ce que il y a un sportif et une sportive que tu aimerais écouter sur ce podcast?
Ouais. Ça vient un peu avec le système de reconversion un peu dont on parlait. Je parlais de... Enfin, aussi pour changer de sport, parce que sinon je vais te parler de plein de patineurs, j'en connais plein. Et tu vas tourner un rond à un moment donné dans tes podcasts. Mais ouais, je vais... J'espère qu'il répondra à l'invite. C'est Thibaut Fauconnet. Donc il a été membre de l'équipe de France de short track. Il a dû faire deux ou trois fois les Jeux Olympiques, je pense.
Okay.
Et cette année, depuis peu, il est passé coach de l'équipe des États-Unis de short track.
Ouais,
donc je pense que ça peut être intéressant de voir cette transition, parce que là, il est vraiment passé de l'autre côté de la barrière. Et du coup, sur ça, il a arrêté sa carrière d'athlète. Donc je pense que ça peut être intéressant. Ouais.
Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Nolan. C'était vraiment un plaisir. Et j'espère que tu as passé un bon moment aussi.
Ouais, c'était cool. Merci, merci à toi.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.